Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
C'est ce que l'on pourrait appeler la concordance des temps. Si j'ouvre par exemple le journal Le Parisien qui fait sa une sur Jean-Luc Mélenchon avec ce mot l'outrance, on découvre une caricature de Rançon avec un Jean-Luc Mélenchon s'adressant à Marianne et Jean-Luc Mélenchon dit à Marianne « Tu me touches pas toi, ma personne est sacrée », cette incarnation du peuple. Et maintenant si je me tourne vers mon invité Marcel Gauchet, bonjour,
vous êtes
philosophe, je vous ai invité parce que vous publiez un Robespierre et on découvre chez Robespierre des phrases que Jean-Luc Mélenchon aurait probablement appréciées. Par exemple, celle-ci, « Tous les ennemis de la liberté parlent contre le despotisme d'opinion parce qu'ils préfèrent le despotisme de la force ». Une phrase qui renvoie à cette actualité-là. Est-ce qu'il y a finalement, au travers de la controverse sur Robespierre et au travers du robespierrisme, parce que finalement on pourrait lui créer un isme aussi, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est finalement l'un des descendants de Robespierre ?
Il l'est sans doute sur le plan de la philosophie politique. Il ne l'est pas, en l'occurrence, dans son comportement. Je crois que le souci formel de Robespierre et l'assez remarquable maîtrise de lui-même qu'il a montré tout au long de ses années, les quelques années de vie politique, n'ont rien à voir avec le comportement tout à fait postmoderne en réalité de Jean-Luc Mélenchon, qui aurait probablement horrifié Robespierre comme une transgression de la rigueur morale que doivent montrer les représentants de la nation.
Pourquoi postmoderne ?
Parce que postmoderne au sens de la déconstruction des codes, qui est la traduction la plus simple, en l'occurrence les codes de comportement. Je crois que nous avons assisté à quelque chose qui aurait encore une fois horrifié Robespierre, c'est l'irruption d'un comportement privé dans la vie publique. Et tout son souci, c'était d'arriver à une impersonnalité de la conduite des gens qui s'exprime au nom du peuple. En l'occurrence, c'est la personne Mélenchon qui se conduit d'une façon outrancière, puisque c'est ce que tout le monde ressent spontanément, et pas le représentant du peuple Mélenchon.
Mais si l'on considère qu'il y a aussi de vieilles théories sur la dualité des corps politiques, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le corps de Jean-Luc Mélenchon, en tant que représentant de la nation, est un corps sacré, Marcel Gauchet ?
Non. Justement, un représentant n'est pas un incarnateur. C'est toute la nouveauté de la politique moderne, dont précisément Robespierre est, je pense, l'un des grands premiers incarnateurs. Un roi incarne, c'est-à-dire sa personne même est sacrée. Un représentant, certes, reste une individualité humaine avec sa personnalité, ses particularités, il y a droit. Mais, il est autre chose que lui-même dans l'exercice de ses fonctions et l'effort qu'on attend de lui, sans y réfléchir vraiment, c'est de se comporter à distance de ce qu'il est privément pour représenter et non pas incarner. La personne d'un représentant de la République n'est pas sacrée. Ce qui est sacré, c'est sa fonction. Et justement, s'il met sa personne à la place de sa fonction, il désacralise la fonction. Le raisonnement consistant à dire « je suis une personne sacrée » témoigne d'un enracinement monarchique assez inattendu. Mais alors, un raisonnement pré-moderne chez Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence.
Finalement, dans les jours que l'on vient de vivre en politique, il n'y a que de l'irruption du privé. Si l'on prend par exemple la démission de Gérard Collomb, elle est manifestement là pour des motifs privés. Voilà un homme qui était ministre. On pouvait considérer qu'il avait une mission, mais pour des raisons privées, il préfère démissionner. Et aujourd'hui, on a Jean-Luc Mélenchon donc qui repousse les forces de l'ordre parce qu'il considère que celles-ci n'ont pas à être là où elles sont et à faire ce qu'elles font. C'est ça l'irruption du privé pour
vous,
Marcel Gauchet ?
Tout à fait. En l'occurrence, revenons à Jean-Luc Mélenchon. Il y a des procédures qui permettent, qui lui auraient permis de protester de façon légale dans les formes contre une opération de police qu'il a le droit de trouver à justifier. Nous sommes dans un système où la défense est possible contre les abus de l'autorité. Il se peut qu'il ait raison sur le fond. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est vrai que la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est la grande difficulté dans la culture ambiante de faire le départ entre ce qui est une fonction publique et la personne privée qui la représente. Il y a une confusion permanente qui est un grand trouble pour les citoyens.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un devoir sacré de s'élever quand on considère justement que les principes les plus nobles sont bafoués? Par exemple, ceux qui pensent que le régime parlementaire, c'est le système de la corruption, je cite Alain Badiou, ceux-là, ils sont tout à fait d'accord avec les derniers mots de Robespierre. La République est perdue, les brigands triomphent, Marcel Gauchet.
Alors, le propos est à resituer dans son contexte.
qui n'est pas le contexte actuel.
Les brigands ne triomphent pas, jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a pas... En l'occurrence, il s'agissait du renversement d'un pouvoir dans des conditions où on ne permettait pas, on ne lui permettait pas à Robespierre de s'exprimer. Hein, les conditions de sa chute, le 9 Thermidor, ne sont pas un modèle du point de vue du fonctionnement des institutions. Ça, c'est un coup d'État. Bon, appelons les choses par leur nom. La menace de corruption est inhérente à ce régime très exigeant qui demande un effort qu'on peut juger surhumain à ceux qui sont désignés par le peuple pour exercer une fonction qui leur demande le sacrifice d'eux-mêmes, d'une certaine manière. Ce que vous pensez en tant que personne privée, ce que vous ressentez, vous devez être capable de le mettre à distance. La première corruption, indépendamment de toute considération d'argent, c'est cette capacité à regarder les choses, l'actualité, les décisions que vous avez à prendre, d'un point de vue qui n'est pas celui de votre individualité singulière, mais du point de vue de l'intérêt public. C'est une discipline extraordinairement difficile, il faut le reconnaître, dont très peu de grands exemples nous restent. Et je crois que c'est aujourd'hui une des grandes questions posées à nos régimes. C'est que la corruption commence avec l'invasion du privé dans la sphère publique. Et après, donc, l'intérêt privé au sens le plus banal du mot, pécuniaire ou népotiste par exemple, privilégier ses relations personnelles avec des gens pour les désigner à des fonctions publiques, est devenu la première question dans le fonctionnement même de la République. La République, c'est précisément la chose publique à la place des personnes privées.
Mais à juste titre ou pas? Parce que, par exemple, suite au remaniement, on a accusé l'une des secrétaires d'État, Emmanuelle Wargon, de venir du privé à un poste où elle était en quelque sorte représentante de l'entreprise Danone, de faire du lobbying pour l'entreprise Danone. Et du coup, on s'est étonné que celle-ci soit aujourd'hui secrétaire d'État rattachée au ministre de l'écologie, Marcel Gauchet. A-t-on raison de soupçonner justement ce type de corruption? Là, on est dans une signification très prosaïque du terme de corruption. C'est l'idée que quelqu'un qui a été jadis salarié d'un grand groupe peut-elle penser contre elle-même, contre ce qu'elle faisait avant?
C'est une situation parfaitement répertoriée qu'on appelle le conflit d'intérêts. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a trouvé même une traduction légale extrêmement précise. C'est un progrès, d'ailleurs, mais de institutionnel. On ne peut préjuger. Il y a des gens qui ont exercé des fonctions privées très importantes et qui, le jour où ils sont dans une position publique, sont parfaitement capables de les ignorer. C'est là où on est devant une question très difficile à trancher. La question du conflit d'intérêts repose sur un présupposé de la faiblesse humaine, si j'ose dire. Il est peu probable qu'une personne très engagée au service d'intérêts privés, une fois qu'elle exerce une fonction publique, soit capable de surmonter ses attachements antérieurs. C'est peut-être excessif. Après tout, encore une fois, il y a des exemples du contraire. Mais voilà, on peut présumer qu'il est préférable, par précaution, c'est une sorte de principe de précaution politique, de faire en sorte que les gens qui ont eu à connaître d'intérêts privés et de les défendre ne soient pas mis dans une position où ils vont les retrouver sur leur route et les servir, même inconsciemment, par une espèce d'attachement naturel au milieu dont on vient.
Mais alors si on s'éloigne justement de ces intérêts privés et si on voit la rhétorique inverse, celle qui consiste à dire... Je parle au nom de la France, celle qui consiste à croire qu'on incarne la France. Alors, De Gaulle était spécialiste en la matière, et à l'époque, le journal Le Monde, par la voix de Boeuf-Méry, disait qu'il méritait le cabanon, ou presque, pour penser cela. Et est-ce que aujourd'hui, c'est un discours qui tient encore la route lorsque Jean-Luc Mélenchon dit qu'il représente le peuple? Est-ce que Emmanuel Macron et une incarnation, ou faut-il définitivement tourner la page, Marcel Gauchet ?
Je crois qu'il faut clarifier la différence entre incarnation et représentation. Incarner une fonction veut dire que vous n'êtes pas en personne la fonction. C'est la fonction, c'est toujours des individus qui remplissent le rôle, mais la fonction, elle est abstraite et impersonnelle. Donc, autour de cette affaire, on a beaucoup parlé depuis quelques années, à cause de notre système politique et en particulier du rôle présidentiel, de l'incarnation, il faut faire très attention à ce mot. Nous avons, dans la démocratie, affaire non pas à des incarnateurs, mais à des représentants. Un représentant, en effet, à titre individuel, incarne une fonction, mais il n'en est pas le dépositaire. Et le général de Gaulle est un cas fascinant historiquement, vous l'évoquiez, parce que à la fois on peut dire qu'il avait un sens très élevé de son individualité, mais il était vraiment un représentant, et il l'a montré par son dernier acte, qui n'est pas habituel, en démissionnant à la suite du désaveu à un référendum. Là, il avait marqué qu'il n'était qu'un représentant. Si le peuple le désavoue, il n'a plus à exercer la fonction. Si convaincu qu'il pouvait être, par ailleurs, qu'il était le meilleur porteur de l'intérêt du pays.
Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, est-ce justement le fait que la notion même de représentation soit difficile, flétrie, et il y a aujourd'hui un peu plus de 500 jours de pouvoir pour Emmanuel Macron, et tous les journaux ce matin, par exemple, disent que le second souffle que cherchait cet homme est impossible à trouver. Est-ce qu'il est structurellement impossible à trouver, ou bien est-ce qu'Emmanuel Macron a pris des décisions qui l'empêchent de le trouver, ce second souffle?
Là, il faudrait bien s'entendre. Emmanuel Macron n'a pas dit qu'il cherchait un second souffle. Les médias ont déclaré qu'il était dans l'obligation de chercher un second souffle. Et ils estiment qu'ils ne le trouvent pas. C'est mettre leur calendrier singulier à la place du sien. Justement, il a tout fait, si j'ai bien compris le sens de son remaniement, pour escamoter ce remaniement d'une certaine manière. Donc lui estime qu'il n'avait pas à trouver un second souffle. Le premier lui suffit. Là, on est dans un autre problème. Ce que vous évoquez, c'est la confusion des registres entre l'agenda médiatique qui cherche l'événement. Ils sont très déçus parce qu'il fallait que ce remaniement soit un événement. Aux yeux de celui qui l'opère, ça n'a pas à être un événement. Alors, qui a raison?
Mais alors, que considérez-vous que les médias aient fait fausse route, si tant est d'ailleurs qu'ils...
Ils ont fait beaucoup fausse route, oui.
Sur quoi?
Comme d'habitude.
Dites-nous du mal des journalistes, Marcel Gauchet.
Non, mais on le conçoit très bien. Il y a le souci d'un pouvoir, généralement, c'est la continuité de son action. Le souci des médias, et on les comprend, c'est de créer de l'événement, c'est d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Si on nous a créé un suspense insoutenable avec ce remaniement, qui n'était pas du tout l'agenda de celui des dirigeants, d'Emmanuel Macron en l'occurrence. Donc il y a une discordance qui est un problème. pour l'univers démocratique, étant donné le rôle que joue l'information dans la vie publique.
Bon, mais alors attendez, parce que si les médias ont un agenda strictement différent de celui du pouvoir, il reste à savoir ce que voudraient les Français. Pensez-vous qu'il y ait un décalage à la fois entre les dirigeants et les Français, et puis les médias et les Français?
Oui, il y a un double décalage. C'est un des problèmes de la représentation d'aujourd'hui. La fonction, c'est une des complications extraordinaires de la vie démocratique. Elle se joue sur deux scènes différentes. Il y a la relation directe entre les gouvernants et ceux qui les ont élus, et la relation entre les gouvernants et les médias, et la relation entre les médias et les citoyens. On est passé d'une situation duelle à une situation triangulaire, qui complique considérablement la vie démocratique partout. C'est un des éléments de sa déstabilisation. Et je crois qu'on n'est pas arrivé à une bonne clarification de cette situation qui est pourtant essentielle dans la vie publique. Si quand on nous explique que les citoyens détestent à la fois les hommes politiques et les journalistes, où il y a un problème. Il me semble que ça peut pas marcher très bien comme ça.
Mais alors, la différence entre l'époque de Robespierre, où Robespierre, vous citez des phrases étonnantes, où il se bat pour la liberté de la presse, et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a un consensus entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron pour dire que la presse ne fait pas son métier, que les médias sont des freins à la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez, Marcel Rochette?
Ils ne sont sûrement pas des freins. Il y a la liberté de l'information est un élément clé du système représentatif qui n'a jamais été vraiment pensé. C'est la condition informelle du fonctionnement d'un système représentatif. Un système représentatif, ça n'est pas on élit une fois des gens qui ensuite font ce qu'ils veulent, j'exagère, et puis on les revoit 5 ans plus tard ou 7 ans plus tard, ou peu importe les délais. C'est un système où, en permanence, les citoyens sont associés à ce qui se passe dans la sphère du gouvernement par l'intermédiaire des médias. Certes, il y a une communication directe du gouvernement vers les citoyens, mais il y a aussi un contrôle exercé par l'information sur ce que font véritablement les gouvernants. On ne pourrait pas vivre sans cette dualité. Elle est constitutive. Il faut qu'à côté de la communication gouvernementale, il y ait une communication critique où tout ce qui se passe dans la sphère du pouvoir est sous les yeux des citoyens, de manière transparente. Mais encore faut-il que cette structure fonctionne, parce que c'est une structure politique informelle, fonctionne de manière convenable. Et le fait est que nous sommes aujourd'hui dans une situation de dérive où personne ne maîtrise plus rien.
Marcel Gauchet, Robespierre, l'homme qui nous divise le plus, c'est le livre que vous publiez aux éditions Gallimard. On se retrouve dans une dizaine de minutes, on va évoquer avec vous la manière dont la France entend se réformer, faire sa révolution ou bien faire assaut de radicalité. Parce que ça aussi, c'est le robespierrisme. Et on se souvient qu'un homme comme Emmanuel Macron avait publié un livre intitulé « Révolution », comme quoi il doit y avoir... Oui, vous trouvez que ça fait longtemps, mais justement, on va essayer de se rafraîchir la mémoire à ce sujet. On vous retrouve donc, Marcel Gauchet, dans quelques instants. Nous retrouvons notre invité, le philosophe Marcel Gauchet. Justement, cet ancien monde, le fait de vouloir faire table rase. Alors, pour la dernière élection présidentielle, c'était uniquement un mot, une série de mots, Marcel Gauchet?
C'est probablement quelque chose de bien plus ambigu, de bien plus multiforme. Il y a la conscience qu'une transformation énorme a eu lieu. Et nous courons derrière. Nous ne faisons pas une révolution pour nous projeter dans le futur au nom d'une capacité de l'imaginer. Nous courons derrière une réalité. C'est ça la situation politique de nos régimes aujourd'hui. Et de la France tout à fait particulièrement par une espèce de conscience du décalage entre ce que nous sommes par héritage et ce que devient le monde autour de nous auquel nous avons à nous adapter. C'est une situation qui donne à ce mot de révolution une signification très nouvelle par rapport à ce qu'il était dans le passé. Dans le passé, c'était nous avons une idée de l'avenir en fonction de laquelle nous pouvons rompre avec le présent. Nous sommes exactement dans la situation inverse. La révolution a eu lieu et nous essayons de nous porter à la hauteur de cette révolution qui a eu lieu sans nous demander notre avis. Voilà la difficulté d'aujourd'hui.
Mais je vous rappelais tout à l'heure qu'Emmanuel Macron avait publié un livre de campagne intitulé « Révolution ». Ça vous a fait sourire. Vous publiez un Robespierre. Aujourd'hui, ça signifie quand même qu'il y a une nostalgie, une préférence française pour la Révolution. Alors, à vous de nous dire si les révolutions macronistes sont des révolutions feintes, si c'était des révolutions désirées, mais étouffées avant qu'elles ne puissent éclore.
Non, la révolution macronienne, c'est une trivialité de le dire, est tout sauf une révolution, dans l'acception traditionnelle du terme. Et le fait qu'un homme politique mainstream, absolument caractéristique comme Emmanuel Macron, dont le degré de rupture avec l'ordre établi en général sur le plan économique, politique, ne saute pas aux yeux, emploie un tel terme, prouve que la notion s'est complètement diluée dans sa signification primordiale. On est passé de la révolution politique à la révolution marketing. Ça n'a rien à voir. Donc, ça n'est plus qu'un mot. Un mot qui peut encore faire vendre parce qu'il évoque cette grande valeur de l'univers dans lequel nous vivons, l'innovation. Alors, la révolution, c'est devenu l'innovation paroxystique, maximale, intense. Mais on est dans le même qui se continue sur le mode de l'innovation, c'est le même en mieux.
Mais alors comment cela se fait-il que la France soit encore divisée, selon vous, Marcel Gauchet, par des personnages comme Robespierre, alors que si on prend, je ne sais pas moi, les États-Unis, par exemple, les Founding Fathers, ceux qui ont porté la démocratie américaine, ne sont pas du tout polémiques, ne donnent pas lieu à des controverses sur John Adams, ses fondateurs.
Vous avez tout à fait raison. C'est la spécificité française, c'est d'avoir pour événement fondateur un événement à propos duquel les Français sont totalement divisés, de par la manière dont il s'est déroulé. Même aujourd'hui, où le principe pendant très longtemps, cette division a eu la forme de partisans de l'ancien régime monarchique, clérical et tout ce que vous voulez, d'associés, et de la République. Bon, tout ça est terminé. Mais même à l'intérieur d'un consensus démocratique globalement acquis, il y a les tenants d'une démocratie qu'on peut dire libérale, apaisée, qui déteste les moyens de violence qui ont pu être employés par les révolutionnaires dans la période de 89 à 94, puisque c'est le moment climatérique de cette révolution, même si elle dure après. Et puis d'autre part, un maintien d'une tradition révolutionnaire de plus en plus diffuse, de plus en plus molle aussi dans ses références. Le robespierrisme de stricte observance est devenu une espèce presque à préserver au titre de la biodiversité. Mais malgré tout, l'attachement à une certaine radicalité principielle, éventuellement portée sur des moyens d'autorité, demeure une constante de la vie publique française. C'est notre spécificité, c'est la raison pour laquelle il faut la revisiter en permanence. C'est que nous avons pour référence source une division et non pas un consensus. C'est une la particularité du développement politique français.
Mais alors avec une grande ambition, vous le rappelez effectivement Marcel Gauchet, une grande ambition pour un petit pays, vous citez par exemple une invite de Robespierre, faisons des lois non pour un moment mais pour les siècles, non pour nous mais pour l'univers, montrons-nous dignes de fonder la liberté.
À l'époque, la France n'est pas le petit pays qu'elle est devenue de par l'évolution globale. C'est l'une des principales puissances du monde. L'un des pays les plus puissants. Donc évidemment, à l'époque, les États-Unis, c'est tout petit. Il faut imaginer ce renversement des rapports de force et de puissance. Cette ambition-là, c'est une ambition universaliste. Elle est aussi constitutive de l'identité politique française. Même si c'est sur un mode aujourd'hui beaucoup moins affirmé, des pareils propos seraient salués par le ridicule. Mais l'ambition universaliste demeure. Et à mes yeux, ça n'est pas une tare, c'est au contraire une vertu. C'est-à-dire, il y a la recherche d'une exemplarité politique. C'est-à-dire d'une confort, de la recherche de faire de la vie publique une sorte de laboratoire dont d'autres pourraient s'inspirer en fonction de ce qu'on met au premier plan des principes fondateurs qui ont une vertu qui parle à d'autres que les Français.
Et si l'on vous suit, Marcel Gauchet, effectivement, Robespierre avait raison d'être ambitieux puisqu'il a donné au monde, ces révolutionnaires-là ont donné au monde les droits de l'homme dont on entendait tout à l'heure qu'ils sont bafoués dans les actualités, y compris de manière aujourd'hui complètement ouverte par des régimes. Je pense évidemment à l'assassinat probable de Jamal Khashoggi par l'Arabie saoudite. Ça, c'est un moment, c'est-à-dire à la fois le fait d'apporter les droits de l'homme au monde et de voir que ceux-ci sont aujourd'hui ouvertement piétinés.
Eh bien, ça donne à cette tradition française d'une universaliste une légitimité que rien n'atteint, et à commencer par le fait que la taille de notre pays s'est beaucoup restreinte à l'échelle globale. Mais ça n'empêche pas de garder une ambition de produire un modèle politique qui soit à la hauteur des principes fondateurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'expérience révolutionnaire demeure parlante, car il est parfaitement exact qu'il y a une immense distance entre la réalité de nos régimes et ce que les principes qui les fondent nous promettraient. Cet écart-là reste constitutif de la vie publique. Nous continuons de nous battre autour de ce point. Jusqu'où pouvons-nous faire avancer la concrétisation des principes qui fondent nos régimes? Et de ce point de vue-là, nous sommes toujours dans l'équation robespierriste. On peut, quel que soit le jugement qu'on porte sur la manière dont s'est déroulé le basculement terroriste de la Révolution, il répondait à une ambition qui garde toute sa pertinence.
Mais alors, justement, lorsque vous évoquez, Marcel Gauchet, cette fondation des droits de l'homme, et lorsque vous avez écrit, je crois que c'était en 1980, lors de l'anniversaire du débat, dans la revue donc, que vous dirigez, Marcel Gauchet, les droits de l'homme ne constituent pas une politique. À ce moment-là, les droits de l'homme étaient triomphants, en ce sens que l'on considérait qu'ils allaient être l'horizon naturel de tous les pays, de tous les gouvernements. Aujourd'hui, on voit que ces droits de l'homme, ils sont malmenés. Est-ce qu'ils redeviennent du coup une politique? Est-ce que vous considérez finalement qu'ils sont la base même de la politique?
Il y a deux plans à distinguer. Les droits de l'homme sont nos principes fondateurs. Il n'y en a pas d'autres. Et de ce point de vue-là, il faut se battre pour eux partout où ils ne sont pas respectés dans leurs exigences minimales. Mais les droits de l'homme ne constituent pas seulement des principes fondateurs à inscrire et à faire respecter, s'agissant par exemple de garanties judiciaires ou de libertés fondamentales. Il y a dans leurs principes une dynamique qui va bien au-delà de cet aspect auquel on pourrait considérer que l'histoire est terminée dans nos régimes occidentaux à des détails près. Ces libertés fondamentales, ce qu'on appelle l'état de droit, sont en gros respectées. Est-ce que ça suffit? Non, bien sûr. Il y a un au-delà des droits de l'homme. Et là commence le problème de la politique des droits de l'homme que j'essayais de soulever il y a déjà très longtemps. Et nous sommes de ce point de vue-là aussi dans la continuité de l'expérience révolutionnaire. C'est que les principes fondateurs que nous avons ne suffisent pas à définir une société, un régime, une manière d'être des collectivités par leurs seuls moyens. Il y faut d'autres considérations. C'est tout le problème de la politique moderne et c'est ce qui donne à cette expérience inaugurale de la Révolution française, dont le trait majeur incarné par Robespierre est la volonté radicale de rebâtir entièrement la cité humaine sur ses premiers principes. Cela reste vrai et cet échec de la Révolution à y parvenir continue de nous parler à travers le temps et il y a lieu de s'interroger sur ces raisons. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre.
Mais alors, justement, est-ce que cette évolution, elle vous surprend? Parce que lorsque vous avez écrit le désenchantement du monde, lorsque vous considériez qu'on sortait d'un monde politique au sens où la politique avait mené le monde jusque-là, c'est-à-dire que vous considériez, par exemple, que l'ère où l'on pouvait s'engager au prix d'un sacrifice suprême était une ère en quelque sorte révolue. Est-ce que cette évolution-là, que l'on commande chaque jour dans les médias, est-ce qu'elle vous surprend, Marcel Gauchet ?
Rien, ce qui se passe, par définition, nous surprend. Mais profondément, ça ne prend jamais l'aspect qu'on attendait. Mais sur le fond, ça ne me surprend pas. J'ai toujours cru que l'ère de l'imaginaire révolutionnaire, puisque c'est ça que vous évoquiez, qui a été l'équation politique à l'intérieur de laquelle nos sociétés européennes ont vécu depuis la Révolution française, c'est une époque révolue. Mais au-delà, nous revenons au point de départ. La question posée par la Révolution française reste, elle, entièrement ouverte. Et je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de cette expérience originelle. Nous revenons à nos fondamentaux, si j'ose dire. Au fond, il y a eu une sorte d'immense parenthèse historique qui a duré presque 2 siècles et qui nous ramène à ce qu'a été l'expérience inaugurale dans les termes presque où ça s'est posé. Évidemment que la rhétorique robespierriste nous paraît aujourd'hui à la fois magnifique dans son verbe et complètement inadéquate à la situation que nous vivons, mais la signification profonde de l'expérience et d'une actualité étonnante. Et donc moi, je ne suis pas du tout surpris par ce qui se passe. J'ai l'impression, au contraire, j'oserais dire un peu prétentieusement, d'assister à ce que j'avais en gros anticipé.
Mais alors, cela signifie que les manifestations, parce que malgré tout, lorsqu'on parle de la mort du religieux, en tout cas dans l'espace social, il est à peu près vrai en Occident, il n'est pas vrai par exemple pour le monde musulman. Est-ce que ça, c'est le signe que ce monde-là obéit à d'autres règles? Est-ce que cela signifie qu'on assiste à la fin d'un phénomène et qu'à la fin, ce phénomène est en quelque sorte en train de lancer son champ du cygne?
Alors, le religieux n'est pas mort, d'ailleurs. Disons qu'il n'est plus organisateur de la vie collective, ce qui est très différent. Il l'est dans d'autres, il continue de l'être dans d'autres sociétés, de la même façon que les droits de l'homme sont une énorme nouveauté encore, on en parlait tout à l'heure, pour le monde arabe. On voit bien qu'un principe comme la liberté d'expression et la liberté de la presse, c'est toujours à conquérir. Donc, évidemment, aujourd'hui, nous sommes obligés de raisonner, c'est une grande nouveauté, sur une double scène. Globalisation aidant. La mondialisation, ça veut dire que nous sommes obligés en permanence de raisonner non seulement à l'échelle de nos communautés politiques privilégiées, l'Occident pour faire simple, mais aussi à l'échelle globale, où on voit bien que des choses qui nous paraissent absolument essentielles sont très loin d'être acquises, même s'il y a des exemples, le Bhoutan qu'on évoquait tout à l'heure, où un cours tout à fait satisfaisant peut se dérouler.
Où le bonheur n'est pas une idée neuve, apparemment.
Vous faites allusion à une phrase de Saint-Just qui a été totalement sortie de son contexte. Quand on l'y replace, on voit que, contraire, le bonheur était une idée neuve en Europe, mais le moment n'était pas venu de l'incarner.
Lorsque justement on suit ces débats révolutionnaires, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont ils résonnent parfaitement dans l'actualité. Je citais tout à l'heure une phrase où Robespierre expliquait qu'il était du côté du despotisme d'opinion parce qu'il fallait choisir entre le despotisme d'opinion et le despotisme de la force. Ça, c'est le point de vue de Robespierre. Et de l'autre côté, il y a quelques années après, le point de vue de Tocqueville, où il considère, cette fois-ci Tocqueville, que le despotisme d'opinion est précisément ce qu'il faut combattre. Et on voit qu'un Emmanuel Macron est plutôt du côté de Tocqueville, lorsqu'il considère par exemple que ce qui est important, c'est d'assurer l'autonomie des individus. Est-ce que cela signifie qu'il y a cette fracture-là dans le monde politique français, ceux qui pensent que le peuple est un tout et ceux qui croient qu'il faut donner à l'individu la possibilité d'être libre en tant qu'individu?
Alors, quand Robespierre parle du despotisme d'opinion, il parle de celui qui lui est imputé. Il est, ses adversaires lui reprochent de régner par la popularité, pour faire simple. Et il a raison. Je pense que ce despotisme-là, dans tous les cas, est préférable au despotisme de la force. Je ne vois pas ce qu'on peut objecter à cette idée. Mais peut-être y a-t-il une voie moyenne entre ces deux despotismes qui s'appellent, le despotisme du droit. C'est-à-dire des formes légales qui protègent la liberté des individus. Mais cette question que vous évoquez en citant Tocqueville, qui est un peu différente, reste d'une actualité brûlante. C'est-à-dire, le despotisme d'opinion dont parle Tocqueville, c'est celle de l'opinion publique. Le despotisme d'opinion dont parle Robespierre, c'est celle de la faveur qui l'entoure. C'est assez différent.
Mais aujourd'hui,
il y a un vrai problème du despotisme d'opinion aujourd'hui. Et là-dessus, Tocqueville est d'une actualité remarquable.
Mais même des deux opinions, puisque un certain nombre de satrapes, de dictateurs, de dirigeants autoritaires bénéficient aujourd'hui d'une réelle popularité dans leur pays. Vladimir Poutine est quelqu'un de très populaire en Russie. Que faire de cela alors, Marcel
Que faire
Rochet
de cela? D'abord, se demander pourquoi il est populaire. Je pense qu'il ne suffit pas de condamner dans ces choses. Il y a de l'analyse à produire. Et une analyse qui nous engage dans un problème de fond de l'univers démocratique. Parce qu'il y a un despotisme démocratique qui est possible. Quelqu'un peut être élu avec 80% des voix et par ailleurs se conduire d'une manière qui choque les principes les plus fondamentaux d'une société de liberté. Au nom des principes démocratiques qui sont incontestables, on peut produire des régimes détestables. Voilà la grande question qui est posée aux démocraties. Aujourd'hui, quand on parle de démocratie illibérale, c'est le nouveau dilemme, mais qui est le dilemme d'origine. Comment traduire un régime de liberté des personnes dans un pouvoir collectif qui n'est pas oppressif? Nous sommes en train de revenir exactement à ce qui a été le problème inaugural de l'univers de la liberté dans lequel nous avons la chance de vivre et qui est peut-être aujourd'hui menacé. Il est menacé non pas par la volonté antidémocratique, comme ça a été longtemps le cas, le principe d'autorité, quelle que soit sa forme, mais il est menacé par la dynamique même de l'idée démocratique. Au nom de la démocratie, nous avons la majorité, la minorité doit se taire, et on peut d'ailleurs lui enlever le droit de s'exprimer. Électoralement, la souveraineté du peuple est respectée. Les principes de liberté n'en sont pas moins bafoués. Voilà la contradiction que nous sommes en train de retrouver au travers de ce qu'on appelle les populismes.
L'héritage de Robespierre, c'est aussi, peut-être, Marcel Gauchel, la préférence française pour la radicalité. Mm-hmm. On le voit, et il y a une sorte de romantisme politique en France. Comment vous l'expliquez? Comment se traduit-il?
Alors, je crois que c'est la rançon d'un des privilèges de notre tradition politique. Le privilège de notre tradition politique, c'est de privilégier les idées, les principes. Robespierre, c'est typiquement l'homme qui a légué aux Français l'amour des principes dans lesquels ils ont reconnu un homme exceptionnel qui se dévouait entièrement aux principes. Et d'une certaine manière, comment s'en plaindre? Sauf que quand on met au premier plan la logique des idées, la volonté d'être rigoureux dans l'application des principes, d'être radical en ce sens, qui est au départ un sens parfaitement noble, on arrive très vite, d'abord à une ignorance des réalités auxquelles ces principes peuvent s'appliquer, et ensuite à l'excommunication morale des gens qui objectent à ces principes, au nom de réalités parfois très tangibles, et pourquoi pas à la nécessité de les mettre hors jeu, que ça soit en les faisant se taire, ce qui est plutôt la solution favorisée aujourd'hui, ou les exterminer comme on avait une certaine propension à le faire historiquement à l'époque. Voilà, la vertu se retourne assez vite dans un défaut majeur. La radicalité a une immense vertu et elle a elle pose un immense problème moral. C'est qu'au nom de la radicalité, on peut surtout produire le mal politique. Mais il faut bien voir que c'est très difficile de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quelque chose de très positif à la base de ce culte de la radicalité qui nous met tous dans l'embarras. Nous préférons des politiques qui parlent au nom des idées et d'une certaine rigueur des principes à des pragmatiques, après, à tous les arrangements vaseux, au nom du fait que les réalités, c'est comme ça, on s'en accommode, on se débrouille avec. Bon, les Français détestent ça, pour une part d'entre eux, et je n'ai pas de peine à les comprendre.
Et il y a, dans votre Robespierre, quelque chose d'inquiétant, Marcel Gauchet, parce qu'on découvre, finalement, que cet homme qui incarne, pour beaucoup de Français, un visage de l'intransigeance en politique, était au départ quelqu'un d'extrêmement modéré, balancé dans son expression.
Tout à fait. C'est quelqu'un qui a connu une mutation radicale pendant le processus révolutionnaire. C'est au départ un homme prudent, qui fait même l'apologie de la prudence en politique. Il n'y a rien de plus remarquable que les discours au travers desquels il s'oppose au parti de la guerre, auquel il fait ressortir toute l'imprudence, toute la folie du choix qu'ils sont en train d'imposer.
Il considère que le roi peut rester.
Oui. Au départ, il est convaincu, on pourrait dire c'est un monarchiste constitutionnel, comme la grande majorité des constituants au milieu desquels il évolue, à la différence près qu'il est radicalement constitutionnel, si j'ose dire. Mais au fond, un monarque dont les pouvoirs sont très réduits, de telle sorte que la liberté des individus et de la société est assurée, ça lui convient très bien. Tout change à partir du moment où il n'y a plus droit et où le problème est de savoir ce qu'on met à la place. Ça s'appelle la République et c'est un régime qui n'est pas simple à établir et à faire fonctionner.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui pose problème à Robespierre, Marcel Gauchet ?
Qu'est-ce que le pouvoir du peuple ? Une fois qu'on a posé le principe qui est très simple, il faut lui donner une traduction institutionnelle. Le contexte bien connu dans lequel la question est posée ne facilite pas les choses. Évidemment, guerre civile plus guerre étrangère, ça ne permet pas de raisonner calmement et de débattre paisiblement de la bonne forme de donner à ces institutions. Mais ça va bien plus loin. Il y a dans la dynamique de cette fondation de la République comme régime de la vertu, non pas de la vertu au sens moral banal du terme, mais au sens du culte de l'intérêt général substitué à l'intérêt particulier, une propension à un despotisme radical dont il va devenir l'incarnateur aux dépens de ses premières implications politiques.
Le fait qu'il y ait en France des personnages qui divisent, alors pour vous Robespierre en est un, et on a vu récemment à la faveur de la parution du livre d'Éric Zemmour ressurgir par exemple une controverse qu'on aurait pu croire un peu oubliée entre De Gaulle et Pétain. On pensait que il y avait un consensus plutôt pour choisir l'un contre l'autre. On s'aperçoit que ça n'est pas le cas ou bien c'est uniquement un phénomène d'édition, un phénomène superficiel ?
Je crois que c'est un phénomène tout à fait superficiel qui obéit à une martingale facile à comprendre. À partir du moment où vous prenez le parti le plus minoritaire et le plus écarté de l'opinion moyenne, vous faites un événement. On se dit comment cet Olibrius peut penser comme ça. Ça devient intéressant
vous
parce que c'est l'écart maximal. Ça s'appelle la logique de la provocation. Ça marche à tous les coups.
Ça marche sur le plan du bruit médiatique, mais ça marche aussi sur le plan des ventes. Les gens achètent ce livre.
Et parce que le bruit médiatique produit des effets dans la société. Les gens se disent « Ah tiens, c'est au moins original. » Et puis ça répond évidemment à une clientèle qui, au fond, est contente de se dire, après tout, on était prêt à adhérer à l'idée que Pétain avait peut-être tort, mais finalement, et s'il avait raison, qui sait ? On voit bien le fonctionnement de ce genre de phénomène. Il est limpide.
Marcel Gauchet, Robespierre, l'homme qui nous divise le plus, s'est publié aux éditions Gallimard.